Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
La poésie enivrante d'Amanda Gorman et les baskets Adidas les plus longues de l'histoire. Jusqu'ici, rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces deux sujets de conversation au cours d'un dîner, sans vous poser de questions. Vous savez, ces dîners où l'on parle de tout, de l'important, du futile, de politique, de mode, d'écologie, et oui, d'une poétesse afro-américaine surdouée. Je vous propose cette fois d'en parler avec une actrice, un chanteur, une auteure ou un artiste. Je suis Marion Galli-Ramouno, chef de service culture célébrité, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités. Un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. J'accueille aujourd'hui une humoriste décapante et volubile, celle qui excelle dans l'art de décrypter nos névroses sur scène et à laquelle on s'identifie volontiers au gré de ses chroniques mordantes distillées sur les plateaux de France Inter ou de Quotidien. À 37 ans, Nora Hamzaoui nous a habitués à s'auto-psychanalyser sur l'autel de sa génération, née dans les années 80. 5 ans après son livre « 30 ans, 10 ans de thérapie » dédié à son bordel intérieur, elle a publié 35 ans, dont 15 ans avant Internet, un ouvrage dans lequel elle se souvient de la vie avant les portables, avant Internet, avant les bouées licornes et l'invasion des spritz. Bonjour Nora Hamzaoui.
Bonjour.
On s'est amusé à revenir sur les premiers pas sur le tapis rouge des Césars. Sophie Marceau, Guillaume Canet, Charlotte Gainsbourg. Vous vous souvenez, vous, de votre premier tapis rouge?
Je pense que officiellement, ça devait être à Venise pour le film d'Olivia Sayas, Double Vie. Et c'était dingue, quoi. Ça n'avait aucun sens. Et c'était assez merveilleux, parce qu'en plus, c'était la première fois que j'allais à Venise. Donc, il y avait quand même quelque chose de ludique et de magique, en plus du trac, quoi. Je portais une robe extrêmement décolletée et j'avais mis des petits scotchs pour que ça tienne. Et donc, j'avais vraiment ce stress de me dire, il ne faut pas que je me retrouve nue, en fait, pour mon premier tapis rouge et que les scotchs se décollent. Mais bon, tout était assez merveilleux.
La chef Anne-Sophie Pic nous disait que, pour se détendre, elle fait une cérémonie du thé. Qu'est-ce qui vous apaise, vous? Qu'est-ce qui vous détend, vous donne de l'énergie?
Moi, de cuisiner, ça m'apaise beaucoup. En fait, c'est marrant parce que je trouve que le rapport à ces questions-là aussi a changé à cause de tout ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'avant, j'aurais dit être à la maison, en famille, cuisiner. Sauf que là, ça fait un an que je fais ça. Donc, ça commence à me tendre et ça ne m'apaise plus. Mais... je dirais quand même, en règle générale, écouter de la musique, la radio, tout ce qui m'empêche d'être face à une image m'apaise pas mal. Même si évidemment j'aime beaucoup le cinéma et que j'ai regardé beaucoup de films pendant cette période, mais la radio m'apaise en fait. Le son, la voix m'apaise. Le fait de pas être stimulée par des images. Cuisiner.
Qu'est-ce que vous cuisinez?
Je cuisine beaucoup végétarien parce que je mange vraiment de moins en moins de viande, et puis au-delà de ça, enfin, je peux en manger un peu, mais ça me dégoûte d'en cuisiner chez moi. Enfin, je sais pas, j'ai un truc comme ça avec la viande et les odeurs et tout. Donc, je cuisine beaucoup de trucs végétariens. Je cuisine, par exemple, là, ma grande recette, c'est un curry de lentilles aux épinards. Très bon. Voilà. Je cuisine un chili sin carne aussi. Je cuisine plutôt bien.
La professeure de pédopsychiatrie Marie-Rose Moreau nous a alertés sur la vulnérabilité des adolescents après 1 an de pandémie. Elle était comment, votre vie, quand vous aviez 15 ans?
Je pense beaucoup plus dans l'insouciance que les adolescents d'aujourd'hui, parce qu'on était beaucoup moins informés, et stimulés et connectés. Donc je pense que le truc, je trouve, qui change réellement, c'est le rapport au temps, mais vraiment à la temporalité, à l'attente, au temps long, et même à l'amour, quand on tombait amoureux et qu'on croisait un regard, ça nous faisait battre le cœur et on avait des nouvelles potentiellement que le lendemain ou deux jours après, c'était le week-end. Et on avait tout un temps long pour l'imaginaire et pour se projeter des choses. Donc je pense que j'étais beaucoup dans l'imaginaire, sans doute moins militante aussi et moins consciente en fait que les ados d'aujourd'hui. Et moi, mon adolescence, ça a été comment, mes 15 ans. Depuis que j'ai 4 ans et demi, mais je rigole pas, je rêve d'indépendance et d'autonomie. Donc je pense qu'à 15 ans, ça devait être vraiment le max, étant donné la crise d'adolescence et tout. J'avais très envie d'être libre, de partir de chez moi. Je m'étais déjà un peu de sous de côté ou d'argent de poche en me disant ça, je m'achèterais un truc. J'imaginais mon futur appart, là où je pourrais mettre des vases, des fleurs et tout. Enfin, j'avais très envie d'être adulte, en fait.
Fatigue, stress, insomnie, perte de contrôle. On a beaucoup écrit sur les incroyables pouvoirs de la respiration, sur l'endormissement et le sommeil. Comment vous dormez ?
En règle générale, je suis quelqu'un qui dort hyper bien et qui peut s'endormir n'importe où. Je suis un peu la personne agaçante qui vraiment... je dors en 2 secondes. Enfin, j'ai aucun problème. Et je peux dormir plusieurs fois par jour. Enfin, c'est terrible. Et puis, je pense que plus on dort, plus on a envie de dormir. Mais en ce moment-là, ça fait... Depuis 3-4 jours, je recommence à bien dormir. Mais sinon, j'ai eu une phase de, je pense, vraiment 3 semaines où je dormais très mal et j'avais cette espèce de sommeil. Et ce n'est pas tellement de l'insomnie. Je trouve que c'est presque pire, mais ça se trouve, c'est une forme d'insomnie, de sommeil léger. On a l'impression de tout le temps être dans la pensée. Enfin, on a toujours l'impression d'être dans un sommeil superficiel et de réfléchir à des trucs ou d'être que dans une sorte de première couche de sommeil ou de rêve. Enfin, c'est-à-dire que vraiment avec un état de conscience qui revient, enfin, je sais pas, toutes les 5 minutes, je n'arrivais pas du tout à me plonger. Mais ça m'a rassurée parce que j'ai vu sur mon iPhone, là, dans les alertes, là, qu'il y avait pas mal d'articles à ce sujet-là. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça doit être une tendance due au confinement et à notre état psychique. Enfin, non pas que ce soit tellement rassurant, mais je me suis dit, bon, bah, c'est qu'il y a un truc en ce moment et que ça va aller mieux. Et donc voilà, je prends des petits produits naturels pour essayer de mieux dormir et je crois que ça marche. Et surtout, je pense qu'il y a aussi un truc où, comme je suis quand même privée de mon boulot principal, de la scène et tout, je crois qu'il y a un truc où le temps est tout le temps le même. Donc l'heure du coucher, ça ne veut plus dire grand-chose et on ne sait pas de quoi on se repose et on n'arrive pas non plus à se projeter, donc on ne sait pas pourquoi il y a un... On ne sait pas quoi attendre du lendemain, donc je pense qu'il y a un truc un peu comme ça qui vient nous empêcher de nous apaiser. En fait.
Tilda Swinton nous confiait récemment « Chez Almodovar, je me sens chez moi », tout simplement. Où vous sentez-vous chez vous, par-dessus tout ?
Chez moi. je me sens vraiment chez moi, chez moi. J'adorerais dire chez Assayas, je me sens vraiment chez moi, parce que je trouve que ce serait hyper chic. Et ceci dit, je l'aime énormément et je me suis sentie beaucoup plus chez moi que je le pensais avant le tournage. Mais en réalité, je me sens chez moi, peut-être sur une scène. Disons que je ne me sens pas forcément chez moi, mais je me sens... si je sentir chez soi, c'est se sentir légitime. Il y a peut-être quelque chose de comme ça sur une scène. Je sens que l'endroit m'appartient et que quand je reçois le public, voilà, comme si je recevais des invités, mais quand le public est là, j'ai l'impression qu'il y a un truc où, en effet, je les invite à découvrir une partie de mon chez-moi. Donc, il y a peut-être ça. Et un autre endroit, rien à voir, je ne dirais pas que je me sens chez moi, mais qu'il y a un truc un endroit dans lequel j'ai régulièrement besoin d'aller et qui me fait du bien, c'est la maison de ma meilleure amie, enfin la maison de ses parents, près de Figeac, dans le Lot, voilà. Où c'est en pleine nature et tout. Et je ne dirais pas forcément du tout que je me sens chez moi, parce que ce n'est pas chez moi, et que je n'ai pas du tout envie que ses parents, s'ils m'écoutent, pensent que je me sens chez moi là-bas. Mais qu'il y a un truc familier, sans doute lié à l'enfance et aux souvenirs, voilà, c'est un endroit... Comme nous, on n'a pas forcément eu de maison de vacances, de trucs, ou de lieu où on allait. On n'a pas du tout un truc de famille, de lieu où on allait en vacances en famille. Je dirais que cet endroit, il remplace un peu ça.
Pamela Anderson se dit prête à avoir un enfant à 54 ans. Qu'est-ce que vous vous sentez enfin prête à faire à 37 ans ?
Mais moi, j'ai l'impression que... J'allais dire que j'ai toujours été prête à tout, c'est pas ça, parce que je suis assez flippée et tout, mais... En tout cas, j'ai pas l'impression que, en vieillissant ou avec les années, j'ai plus de désir ou que je me sens plus prête à quelque chose qu'avant. Au contraire, j'ai l'impression que je me suis sentie prête très jeune à vivre la grande aventure et à faire plein de choses. Et aujourd'hui, à 37 ans, bah, disons que je me sens prête à reprendre le spectacle s'ils veulent bien qu'on rouvre, quoi. Mais je me sens prête à reprendre la vie normale. Je me sens prête à. Mais j'ai pas de gros défis de l'âge adulte où je me dis, ah, ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas à surmonter ou que. Ou... Et d'ailleurs, même la maternité, je trouve que c'est un drôle de truc parce que quand j'étais petite, j'imaginais que devenir adulte et encore plus devenir mère, ça induisait de se sentir différent à l'intérieur et de se sentir grandir et de se voir autrement. Et, et je me faisais une image de moi mère qui est très loin de. En fait, j'ai l'impression que. Qu'on change pas vraiment à l'intérieur. Enfin, moi, j'ai toujours ce sentiment-là de me dire, c'est comme si on était tout le temps la même personne, mais que c'est le monde autour qui évolue. Et donc, du coup, on s'adapte au monde et on constate qu'on vieillit parce qu'on voit que le monde change autour de soi, mais à l'intérieur, on est les mêmes. Tous les trucs sur lesquels je me sens prête, c'est terrible. C'est pas que je me sens prête, c'est qu'il faut. C'est juste que les trucs qui changent avec l'âge, c'est juste des contraintes. C'est que je ne peux plus manger tout ce que je veux, que je ne peux plus boire comme je veux, que je peux plus. Donc, disons que je me sens prête à faire attention, quoi. J'accepte, il faut que je fasse attention.
Dans une interview, Charlotte Gainsbourg évoquait sa détresse après la mort de son père. Elle disait que c'était Yvan qui l'avait ramassé, ses propres mots. Y a-t-il un moment dans votre vie où vous n'auriez pas pu vous relever seule ?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire, parce que déjà, j'ai toujours été hyper entourée. Et j'ai aussi fait une thérapie très jeune, donc j'étais... J'avais mon docteur Daillon à moi de mes 15 ans à mes 30 ans, je pense. Donc, j'ai fait 15 ans de thérapie. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à cette question, de me dire j'ai été plutôt chanceuse dans les petites comme dans les grandes épreuves. J'ai été plutôt entourée. C'est pas du tout un événement dramatique, mais j'aurais sans doute pas pu monter sur scène sans mes amis. Mais aussi pour des raisons techniques qui sont que c'était mon seul public au début et que ça m'a évité de jouer dans des salles vides. Mais sinon, pour le reste, non, j'ai plutôt été accompagnée.
Dans une enquête société, on a décrypté le quotidien des couples trentenaires, ces couples qui se sont construits sur l'idée de l'égalité homme-femme en théorie, mais qui en pratique n'échappent pas aux inégalités et à cette fameuse charge mentale. Votre charge mentale à vous, elle se situe où ?
J'ai fait tout un sketch sur France Inter sur la charge mentale, c'est un sujet qui me passionne. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, quand je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de réactions, évidemment de mecs, hein, qui disaient « les pauvres sont mecs, ce qu'ils doivent se prendre, j'aimerais pas être avec elle et tout ». Et en fait, il y a un truc qui est assez drôle là-dedans, c'est que déjà, dans le processus créatif, le but n'est pas de décrire sa vie, mais de transformer et d'inventer des choses autour. Donc évidemment que je ne raconte pas mon quotidien mot pour mot. Et surtout, j'ai eu la bonne idée de sortir avec quelqu'un qui est intelligent et qui a de l'humour. Et de l'autodérision. Et c'est marrant parce que ce sketch-là est le sketch préféré de mon amoureux. Donc la charge mentale, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est aussi une vision totalement différente dans le couple. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir un amoureux qui est très présent, qui est un super père et qui... Enfin, c'est pas un truc de répartition des tâches en ce qui concerne mon couple. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est quelque chose de mental. C'est quelque chose qui est plus propre à... Peut-être à l'anticipation, à la capacité de se projeter, de gérer plusieurs choses en même temps, de penser aux choses, en fait, plus vite que l'autre, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon sketch, souvent la réponse à ça, quand on le partage à son conjoint, c'est « mais fallait me dire si t'avais besoin ». Et en fait, le but, ce qui serait idéal, c'est de ne pas avoir besoin de le dire. Il y a beaucoup ce truc de « je peux pas deviner, je suis pas devin, fallait me dire ». Ou qu'est-ce qui te ferait plaisir ? C'est une espèce de truc où tout est dans la question et on se dit à un moment, démerde-toi, quoi. Moi, je pose moins de questions et je suis plus autonome. Mais bon, c'est quelque chose qui est assez lié à l'autonomie, en fait. À la capacité de pouvoir gérer, et je pense aussi à un désir de vouloir gérer les choses, en tout cas en ce qui me concerne. C'est vraiment une contradiction entre un désir de vouloir tout gérer, un désir que l'autre prenne la main et un fond... de mauvaise foi de moi qui pense qu'il va prendre la main mais que je vais quand même le contrôler parce que je pense que je vais faire un peu mieux si je le fais moi-même. Donc tout ça est très compliqué.
« En marge de la journée de la femme, on s'est attaché à mettre en lumière ces femmes pionnières et premières. La vice-présidente Kamala Harris, la pilote de F1 Maya Veug, la navigatrice Clarisse Kremer, qui ont ouvert en quelque sorte la voie aux autres. Quelle est la femme ou l'icône qui vous a ouvert la voie, vous, dans votre vie, ou qui vous a particulièrement inspirée?
Dans le livre, je parle d'Angela Bauer, parce qu'on passait beaucoup de temps à mater des séries à la maison, à regarder la télé, à déjeuner devant la télé, enfin voilà. Et j'avais vraiment une fascination pour cette femme. Déjà parce que j'avais globalement une fascination pour les femmes qui travaillent. Enfin, après, je pense que c'est un truc vraiment de l'enfance où très tôt, on joue au marchand, à la marchande, à la maîtresse. Et Angela Bauer de Madame Esservie, qui était, je crois qu'elle bossait dans la pub, elle avait un truc hyper chic, hyper... En fait, il y avait quelque chose de... Moi, ce qui me plaisait à l'époque, tel que je me le disais, c'était elle vit dans une maison... elle est indépendante financièrement, il n'y avait pas d'homme, donc il y avait un truc de mère célibataire qui est quand même joyeux et pas chaotique. Et puis, c'est aussi quand même un truc de où elle est tellement libre et indépendante et elle a tellement besoin de rien qu'elle casse les codes sociaux et les en se retrouvant à avoir une romance avec son homme à tout faire. Donc, il y a un truc vraiment de liberté totale de se dire si je suis indépendante financièrement, si je suis indépendante tout court, je peux faire les choix que je veux, quoi. Et être avec qui je veux socialement, et tomber amoureuse de qui je veux, et élever mon enfant bien. Enfin, il y avait quelque chose comme ça d'assez moderne, je trouve, chez elle. Et même dans toutes les figures féminines, même sa mère, celle qui était jouée par Mona, qui était quand même, qui était quand même très sexualisée, en fait. On parlait quand même de la sexualité, ce qui est un truc, la sexualité des grands-mères, on les montre rarement ayant une libido ou du désir et tout. Donc, il y avait quelque chose d'assez cool là-dedans. Et oui, Angela Bauer, ça me plaisait. La manière, la femme forte, des beaux trench. Après, je crois que je suis assez fascinée par les trench. Mais ouais, les femmes qui bossent, quoi. Mais donc, Angela Bauer, je dirais que c'est le premier truc où petite, ça me fascine et je me dis, oh, ouais, on peut travailler, rentrer à la maison et diriger sa propre vie, quoi.
Ma dernière question. Après avoir converti des millions d'adultes au rangement, Marie Kondo s'adresse maintenant aux enfants. Elle leur dit « Range ta chambre et remplis-toi de joie ». Qu'est-ce que vous dites, vous, à votre fils pour l'éduquer au bonheur, un petit peu?
Et pas au rangement, au bonheur. Hein.
Ça peut passer par le rangement pour lui aussi.
Le rangement, il ne me croirait pas. Quoi. Si je lui disais « Range et remplis-toi de joie », il voit bien que moi, je me plains à chaque fois que je vide la vaisselle, que je remplis la vaisselle, que je passe la serpillière, que je sors la serpillière, il me voit me plaindre. Donc, pour atteindre la joie, on joue beaucoup, nous, on joue beaucoup, on est vraiment... Il y a un truc d'imaginaire très fort, mais je me suis fait vraiment prendre à mon propre piège, c'est-à-dire que je fais vraiment beaucoup de voix, quoi. Je fais la voix des vers, des couverts, je fais la voix du chat, on a un chat, enfin, je me suis retrouvée dans un épisode très embarrassant chez le vétérinaire, où il demandait à mon chat si ça s'était bien passé, l'anesthésie, et donc j'ai répondu « Oui, ça va, tu m'as manqué !» Et donc le vétérinaire m'a regardé en se disant, je pense qu'il a dû se dire, elle, c'est vraiment, ça ne va pas du tout, quoi. C'est des formations professionnelles, elle fait des sketchs, genre elle fait la voix du chat, ça doit être une mère insupportable. Donc je pense qu'on développe beaucoup, beaucoup l'imaginaire et le pour de faux, sachant que pour les enfants, pour de faux ou pour de vrai, la frontière, elle est très mince. Mais par exemple, j'aime bien l'idée de croire au Père Noël, même si on se doute que c'est pas forcément vrai. C'est un truc dont je parle à un moment dans le livre où je parle à d'autres parents d'élèves qui disent moi ça m'ennuie de lui mentir. Et je dis mais c'est pas un mensonge en fait, c'est pas ça un mensonge, c'est pour de faux, c'est un jeu, c'est comme quand on dit moi je suis le poney et toi t'es je sais pas quoi. Enfin, et je trouve que de laisser une part d'imaginaire comme ça, moi j'ai jamais cru au Père Noël par exemple. Notre mère nous disait faites-moi votre liste, je vais chez Euromarché, à l'époque ça s'appelait. Et mon frère, en revanche, me faisait croire à des trucs un peu étranges de lutins dans le jardin qui bouffaient des pépins de pommes et je les nourrissais aux pépins de pommes. Et je croyais aussi en Alf. Et évidemment que je n'y croyais pas complètement. C'est-à-dire que je décidais d'y croire au moment où ça me plaisait. Et je pense que c'est aussi ça, l'enfance. Donc, je trouve que c'est sympa de, en tant qu'adulte, d'autoriser un enfant à, voilà, se laisser imaginer des choses sans s'inquiéter de savoir s'il pense que c'est vrai ou si c'est faux et sans se placer dans le rôle de la culpabilité, de savoir si on ment ou pas. Il faut juste donner une notion de plaisir. Et étant assez... je déteste ce mot, en plus, c'est bizarre, mais parce que je pense que comme je suis taureau, dans tous mes horoscopes, ils disent épicurienne et nanana. Mais je pense que quand même, étant assez épicurienne, j'ai quand même un goût pour les ambiances. Et j'aime bien le sensibiliser aux ambiances, au beau, à ce qui sent bon, à ce qui est bien décoré, aux lumières tamisées, aux... à préparer une jolie table avec moi. Tout ça peut être du plaisir, voilà, un truc un peu d'art de vivre... que chacun applique chez soi comme il peut, mais un truc de... Ouais, d'observer ce qui est beau et ce qui est agréable, quoi.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.